le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International, et aujourd'hui, on va parler de la France et du principe de non-refoulement. D'origine iranienne, syrienne, tchétchène, etc., il y a plein de personnes qui sont réfugiées en France, et de retour dans leur pays, ces personnes risquent le pire. Pourtant, la France procède à des expulsions et à des tentatives d'expulsion vers des pays à haut risque. Ce faisant, la France viole l'un des piliers du droit d'asile, c'est-à-dire le principe de non-refoulement. Normalement, on ne peut pas renvoyer une personne dans un pays où elle risque sa vie, la torture ou des mauvais traitements. C'est ce qu'on appelle le principe de non-refoulement. C'est un principe général en droit international qui est énoncé par l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Ces dernières années, la France a tenté d'expulser plusieurs personnes illégalement en violant en toute connaissance de cause les règles internationales et européennes sur le principe de non-refoulement. En novembre 2023, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a même outrepassé une interdiction d'expulsion prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme. On a par exemple des expulsions de réfugiés vers la Russie qui sont illégales en droit international en raison du principe de non-refoulement. La France tente de renvoyer des Caucasiens du Nord, notamment des personnes tchétchènes, vers la Russie. Dans le rapport d'Amnesty International intitulé « Le point de non-retour » qui a été publié en janvier 2023, nous estimons à 60 le nombre de personnes qui risquent d'être expulsées. Nous connaissons la situation dans la région, ces personnes sont menacées si elles retournent en Russie. Un homme refoulé par la France en Russie a subi d'ailleurs des actes de torture et il est décédé en détention en 2022. Le risque est donc réel lors d'un retour au pays et le risque d'expulsion depuis la France vers la Russie a considérablement augmenté après l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 lorsqu'un homme originaire du Caucase du Nord a poignardé un enseignant. Jean-Claude Samouyer, qui est le président d'Amnesty International France, déclare, je cite, « Cet attentat atroce, ce crime abominable, ne doit pas servir de prétexte pour envoyer des personnes à qui on n'a rien reproché de façon factuelle à la mort ou à la torture. » La France n'est malheureusement pas le seul pays à expulser illégalement des Nord-Caucasiens vers la Russie. Notre rapport pointe aussi du doigt la Croatie, l'Allemagne, la Pologne et la Roumanie. Les autorités de ces pays, en tentant d'expulser vers la Russie des personnes qui risquent d'y être torturées, violent le principe de non-refoulement. Nils Musniek, qui est le directeur du bureau Europe d'Amnesty International, déclare, je cite, « Il est scandaleux de constater que plusieurs États européens, alors qu'ils affirment avoir gelé toute coopération judiciaire avec la Russie à la suite de son invasion massive de l'Ukraine, menacent de renvoyer des personnes ayant fui les persécutions dans le Caucase du Nord, à l'endroit même où ces atteintes ont été commises. » Fin de citation. Au Royaume-Uni également, on a un projet de loi qui expulse les exilés au Rwanda. Dans une nouvelle version du projet de loi qui a été approuvé par la Chambre des communes le 17 janvier 2023, puis jugé illégal par la Cour suprême du Royaume-Uni, le gouvernement britannique voulait renvoyer des personnes demandeuses d'asile au Rwanda où leur demande sera traitée. Si le statut de réfugié leur est accordé, ils devront donc rester dans ce pays. Par cette loi, le Royaume-Uni met donc en grand péril le droit d'asile. Et par cette loi, le Royaume-Uni violerait également les règles internationales. Le texte doit désormais passer devant la Chambre des Lords. On a également un accord migratoire néfaste entre l'Italie et l'Albanie. En fait, ce qui se passe, c'est que en Albanie, détenir des personnes exilées secourues en mer par des bateaux italiens, c'est un accord migratoire qui est nuisible et illégal et il est en passe d'être adopté. En fait, le 29 janvier 2024, la Cour constitutionnelle albanaise a approuvé le projet d'accord et ça prévoit de construire deux centres en Albanie pour détenir les personnes qui ont été secourues en mer. Une fois qu'elles ont été amenées dans ces centres, toutes les personnes, notamment celles qui demandent l'asile, seront donc automatiquement placées en détention. Une détention automatique, par nature arbitraire, est illégale. En externalisant le traitement de l'asile en Albanie, pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne d'ailleurs, l'Italie tente de contourner en fait le droit international et le droit de l'Union européenne. C'est assez problématique. Un tel accord va donc fragiliser les conditions de vie des personnes exilées et porter atteinte une fois encore à leurs droits les plus fondamentaux. On a également les expulsions vers l'Iran. Les expulsions de réfugiés vers l'Iran sont illégales en droit international en raison du principe de non-refoulement, encore une fois. Les Iraniens et les Iraniennes cherchent refuge hors d'Iran et ils sont considérés par les autorités de leur pays avec beaucoup de suspicion. Les risques qu'elles encourent en cas de refoulement vers l'Iran sont donc considérables. Et malgré ces risques et la situation déplorable des droits humains en Iran, la France a tenté plusieurs fois d'expulser des personnes exilées iraniennes. Le 23 avril 2023, une Iranienne s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire par la préfecture de l'Aude et elle a été enfermée au centre de rétention administrative de Toulouse pour être expulsée vers l'Iran, en dépit des risques de persécution en cas de retour vers son pays d'origine. Elle a finalement été libérée pour des raisons de santé. Alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déclarait le 25 janvier 2023 devant le Sénat, je cite, « Je puis vous assurer que nous n'expulserons personne vers l'Iran », l'administration française continue de notifier des décisions d'expulsion vers l'Iran, mettant en danger la vie de ces personnes ainsi que celle de leur famille. Et enfin, nous avons les expulsions vers la Syrie. Les expulsions de réfugiés vers la Syrie sont illégales également en droit international, toujours en raison du principe de non-refoulement. La Syrie est, comme on le sait, un pays qui n'est pas du tout sûr. Les personnes réfugiées qui y retournent s'exposent au risque de graves violations des droits humains, viols, tortures, disparitions, etc. C'est ce que nous avons documenté dans un rapport publié en 2021 et qui, pour la première fois, faisait état de ce qu'il se passe pour les personnes réfugiées qui sont de retour en Syrie après des années d'exil. Et pourtant, il y a encore des préfectures françaises qui ont tenté d'expulser deux personnes vers la Syrie en octobre 2022. Une décision qui viole, là encore, le principe de non-refoulement. Notre rapport montre que les personnes réfugiées qui retournent en Syrie risquent d'être persécutées simplement parce qu'elles ont cherché refuge à l'étranger. En menaçant de renvoyer des personnes en Syrie, la France livre des laissez-passer vers la mort. Et nous ne pouvons l'accepter. Le mardi 6 février, le Parlement européen et les pays de l'Union européenne ont trouvé un accord pour mieux lutter contre le mariage forcé, les mutilations génitales ou encore la divulgation d'images intimes. Néanmoins, la question du viol n'a pas été couverte par cette directive en raison de l'opposition de plusieurs États membres, dont la France et l'Allemagne, pour des raisons juridiques, à adopter une définition du viol commune qui serait basée sur le consentement. Après plusieurs mois de bataille sur l'adoption d'une définition européenne du viol basée sur le consentement, le trilogue qui a réuni la Commission, le Conseil et le Parlement européen concernant la directive européenne contre les violences faites aux femmes a enfin pris fin le 6 février 2024. Au cours des négociations ayant eu lieu ces dernières semaines sur le contenu de cette directive, la France aurait dû se placer du côté des femmes et des filles victimes de violences. Et au lieu de ça, elle s'est opposée à l'intégration de l'article 5 criminalisant le viol à l'échelle européenne par une définition basée sur le consentement, renonçant ainsi à mieux protéger les victimes de violences sexuelles en Europe. Faute d'un accord, ce crime ne figurera donc pas sur la liste des infractions liées à l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Pour Lola Schulman, notre chargée de plaidoyer pour la justice de genre, c'est, je cite, « une occasion manquée de protéger davantage les femmes et les filles victimes de violences sexuelles à l'échelle européenne ». En effet, les législations basées sur la notion de consentement ont prouvé qu'elles garantissaient une meilleure protection et un meilleur accès à la justice pour les femmes et les autres victimes de viols. Dans les États membres de l'Union européenne qui ont déjà adopté ces définitions, comme par exemple en Suède ou en Espagne, les signalements et les poursuites à la suite de violences sexuelles ont augmenté. Une définition européenne commune du viol, basée sur le consentement, aurait permis de lutter contre l'impunité généralisée et systématique des violences sexuelles dans l'Union européenne. La position de la France est en contradiction totale avec ses engagements. Sarah Durocher, qui est présidente du planning familial, déclare, je cite, « Alors que la France porte une diplomatie féministe ayant pour objectif de protéger les personnes des violences basées sur le genre, l'opposition de la France à l'ajout de la définition européenne du viol comme absence de consentement est en contradiction totale avec ses engagements internationaux. » Avoir une uniformisation de la définition du viol dans l'Union européenne était une avancée notable pour les droits des femmes et des filles. C'est un échec et la France s'est positionnée du côté des pays conservateurs. Fin de citation. Bien que la directive contienne des éléments positifs pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes, d'autres mesures fortes et contraignantes proposées par la Commission et le Parlement ont été inutilement rejetées par les États membres. En plus de la question du viol, l'obligation de mettre en place des mécanismes de signalement sûr ou pare-feu a été bloquée. La conséquence, c'est que les femmes sans papier et les personnes ayant un statut de résident dépendant resteront moins enclines à signaler des abus par crainte de répercussions sur elles plutôt que sur les auteurs de violences. Nous rappelons au gouvernement que cette directive ne fixe que des normes minimales et nous appelons les États à viser beaucoup plus haut dans leur mise en œuvre de la protection pour les femmes et les filles. Enfin, même si la reconnaissance de la discrimination intersectionnelle dans la directive est bienvenue et nous la saluons, on regrette quand même qu'il y ait une omission dans l'article 35 des groupes exposés à un risque démesuré de violence basé sur le genre, tels que les femmes LGBTQIAP+, les femmes sans papiers et les travailleuses du sexe. C'est donc une occasion manquée pour l'Union européenne de protéger mieux les femmes et les filles contre les violences sexuelles. Et si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur notre site amnestyinternational.fr et je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, à la semaine prochaine.